Bonjour à tous et merci, merci beaucoup Anne pour ce... Ben, c'est un défi que tu m'as lancé d'ailleurs, hein. C'est émouvant et prenant parce que parler de mes parents, de leur rôle dans la psychiatrie de cette époque, bon, alors là on est des années 50 à la fin des années 80, donc je suis contente de parler devant un auditoire comme ça, très ouvert, hein. Je crois que ça fait un peu écho à ce que je vais vous raconter. Parce que bon, j'ai replongé dans mes souvenirs, dans des textes de cette époque, et j'ai redécouvert, je ne sais pas, des choses que je savais sans doute, mais bon, ça m'a fait réfléchir et sentir. Je pense qu'il y a des trucs qui vont m'émouvoir, c'est pour ça que je préfère que tu sois à côté de moi. En particulier, il y a une histoire que... Bon, et là je vous ai mis... ça, c'est un patient de mes parents, enfin de ma mère surtout, qui a fait toute une série de dessins absolument extraordinaires pour faire comprendre, enfin pour se soigner et pour faire comprendre... aussi aux autres, il les a donné délibérément. Donc là, je trouve que prise en main de l'institution, c'est assez beau, ce truc. Bon, ça, c'est la première photo. Bon, alors, donc là, je vais parler de mes parents et de mon histoire aussi, parce que là, j'ai dit témoin, mais je suis plutôt compagnon de route. Je dis compagnon de route parce que j'ai grandi depuis que je suis enfant, il y avait toujours l'idée de... Ah voilà, Sophie Legrand. Il fallait se battre pour les patients. Et toujours analyser, essayer de comprendre le fonctionnement de l'esprit, tout ça. Mes parents, ils ont eu donc un parcours tout entier dans la psychiatrie publique, militant pour l'ouverture, avec les outils de la psychothérapie institutionnelle, de la psychiatrie de secteur. Hein. Et juste tout ça jusqu'en 1987, où ils ont pris leur retraite. Alors, toujours avec... ma mère, elle dit ça dans un des textes que je vous lirai à propos des infirmiers, avec un esprit pionnier, je trouve que ça leur va bien aussi. Donc, leur premier poste à La Rochelle en 55, de 55 à 60, et puis Charcot, à Plaisir, hôpital tout neuf, ils avaient la... Bon, l'hôpital était tout neuf, la politique de secteur, ça commençait juste. Donc, comme tu le disais, 70, un an à Montréal, où ils étaient professeurs invités, puisque, avec Paumelle, parce que les Québécois, ils voulaient déconstruire Saint-Jean-de-Dieu, cet immense, je crois qu'il y avait 3000 patients, quelque chose comme ça. Donc là, il y a corridor de sécurité. Et puis après, en 74, à partir de 1974, aussi quelque chose où ils ont pu être à l'origine, c'est le centre clinique de psychothérapie de Poissy, c'est-à-dire deux secteurs de psychiatrie, enfin un travail de secteur, en face, alors ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est en face de l'hôpital général et tout en lien avec l'hôpital général. Bon, puis ils ont pris leur retraite en 87. Bon, ils ont un peu continué après, je vous raconterai. Ils ont toujours dit, alors ça, c'était une chose que j'ai entendue si souvent, que c'était une époque où beaucoup de choses étaient possibles. Et puis ils disaient aussi qu'ils étaient deux. Et que ça, c'était très important pour faire ce travail. Et. Donc là, je vais aussi un peu parler de moi aussi, un peu comme outil d'analyse, puisque j'ai participé, partagé, voilà. Donc moi, de mon point de vue, après cette enfance un peu particulière, j'ai travaillé comme psychiatre, des fois je dis que j'ai pas eu le choix, mais bon. Et puis le problème, c'était de travailler dans un service où j'ai pas l'impression que c'était, il y avait une régression par rapport à ce que j'avais connu. C'était pas si évident parce que découvrir qu'il y avait des services où on attachait les patients, ça c'était un choc. Et bon, on pouvait croire que ça va aller en diminuant, mais bon là, comme vous le savez, ça va pas en diminuant et même. L'isolement, la contention, tout ça, il y a des recommandations de bonnes pratiques de l'HAS. C'est très symptomatique. Ça a compté plus d'une centaine de pages, hein, de recommandations de bonnes pratiques. Bon, Alors donc j'ai fait de la psychiatrie de secteur, surtout là dans le service de Sainte-Anne, surtout en extra-hospitalier, avec dans le service de Ginette Amado. Ginette Amado, ça c'est une autre sorte de chose, c'est plutôt psychiatrie sociale. Les centres d'accueil et de crise, enfin c'était très intéressant aussi, mais c'était un travail de secteur. Ginette Amado, c'était une exacte contemporaine de mes parents, née en 1925 aussi. Ils se sont connus à l'internat, parce que bon, l'internat c'était un lieu important à cette époque, c'était une sorte de rond-point, je veux dire. Donc elle avait mis en place les centres d'accueil et de crise en 80. À Sainte-Anne, ce n'était pas évident, parce que Sainte-Anne, ce n'est pas très ouvert en général. D'ailleurs, les patients du service, c'était les seuls qui étaient qu'on voyait se balader dans les allées de Sainte-Anne. Hein. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'aurais des choses à raconter. J'ai pris ma retraite. Donc il y a 3 ans, dès que j'ai pu l'apprendre, parce que c'était l'évolution actuelle, je me sentais vraiment impuissante dans un travail contraint, comme dirait Yves Clos. Et alors revoir tous ces combats que j'ai approchés dans mon enfance, enfin, et qu'on pouvait penser gagner naïvement, hein, mais pourtant, voilà, la ségrégation, l'asile, ça revient toujours sous une forme ou une autre, avec le contrôle social et tout ça. Bon, donc là, j'essaye effectivement d'écrire, tu l'as dit, de parler, puis d'aller aux manifestations. Là, je pensais récemment, là, c'est surtout les infirmiers, particulièrement, bon, je pense aux infirmiers du Rouvray, là, qui ont eu le courage de faire la grève de la faim. Et... Non, parce que la psychiatrie, c'est toujours... Tiens, je veux bien que tu mettes le truc suivant. C'est toujours donc cette compréhension du groupe, des institutions. Il y a comme une sorte de mise en abîme avec la société, avec des questionnements, oui, sur la force subversive de la folie, qu'est-ce qui rend malade, enfin, bon. Et alors, si je reprends là le faire une petite citation de Philippe Pommel, le psychanalyste sans divan, qui a un gros bouquin là, d'où ils se sont mis tous ensemble, l'équipe du 13e, en 1970. Alors eux, c'était plutôt psychiatrie communautaire, ils appelaient ça. Et donc, il dit, alors ça j'aime bien, il dit, Pommel, l'adaptation sociale est-elle le signe de la guérison ou de la santé mentale ? La fonction de la psychiatrie communautaire est-elle avant tout la réintégration des inadaptés et des déviants ? Le psychiatre et son équipe doit-il se présenter comme l'instrument docile de la société dans cette tâche, ou bien au contraire, ne s'agit-il pas plutôt d'inquiéter que de rassurer la société, de lui faire prendre conscience de ses mécanismes de réjection ? Inquiéter plutôt que rassurer, ça... C'est toujours bien apprécié, ça. Bon, parce que je crois que c'est pas nostalgie, hein, ce retour vers le passé. Enfin, peut-être il y a de la nostalgie, mais je crois vraiment qu'on peut y puiser des choses dans ces sortes d'expérimentations de l'époque, même si la société a changé, la situation... au niveau organisation sociale, organisation politique, il y a des structures qui sont des carcans de plus en plus importants, rigides, avec c'est plus difficile, hein, avec les chiffres, les évaluations. J'aime bien ce que dit Alain Supiot, qui est professeur de droit constitutionnel à Nantes et puis au Collège de France, qui a écrit... La gouvernance par les nombres en 2015, où il explique bien, en fait je trouve, hein, que c'est très éclairant sur ce fonctionnement de la société où tout est de plus en plus bloqué. Et il parle aussi de la fonction des agences qui ont pris le rôle intermédiaire, ces agences opaques, c'est-à-dire toutes les autorités hautes ou pas, les agences de santé et tout, qui préconisent des choses qui sont des systèmes parfaitement opaques et qui empêchent l'action. Je pensais, par exemple, je crois que c'est au Havre, là, les perchés du Havre, ils ont obtenu des postes supplémentaires, mais au niveau du directeur et tout ça, c'était passé. Mais par contre, l'ARS ne finance pas. Voilà, il y a des blocages. Avant, bon, on s'adressait au directeur, on pouvait s'adresser directement au ministère, mais bon, en plus, le langage s'est rigidifié. Avec des mots qui sont des procédures qui sont comme des effecteurs qui servent plus à penser et donc à agir. Bon voilà, ça c'est mon petit couplet sur la situation actuelle. Notre travail il est encore plus complexe, mais vraiment ces outils-là peuvent nous servir et surtout nous donner confiance dans nos capacités à appréhender ces évolutions qui sont pour une part irrépressible. Bon, sur l'utilisation. Alors, là, pour l'appréhension de ces évolutions, j'ai une petite citation de Kipman, Simon Daniel Kipman, qui s'occupait de la revue Psychiatrie française. Et là, il y a un numéro en 88 sur les institutions de psychiatrie française. Je ne sais pas si tu connais. Et alors, dans l'éditorial, Kipman explique, enfin raconte. Un jour, Wilfred Bion, je pense que... Oui, voilà, bon. Lors d'un séminaire en Amérique du Sud, demanda à ses interlocuteurs ce qu'était l'objet qu'il brandissait. Pour les uns, c'était une tasse, pour les autres, du café. À force d'insister, les descriptions, définitions, associations les plus farfelues surgirent. À la fin, Bion donna la définition fonctionnelle qui manquait. C'est un objet qui me sert à vous poser une question. L'institution, la thérapeutique institutionnelle me paraît avoir la même fonction. Peu importe que la thérapeutique institutionnelle existe ou pas, il suffit qu'elle soit posée, instituée, pour que le psychiatre, la pratique psychiatrique, soit remis en question au plus profond. Et c'est bien l'objectif de ce numéro, donc de la revue, que de montrer que, ainsi provoqué, les psychiatres ne sont pas des machines à soigner, des machines à répéter ce qui a été, des machines à pérenniser les institutions. Le problème n'est pas entre institutions et des institutions, mais de maintenir les institutions vivantes en démontrant chaque jour qu'elles sont mortelles. C'est beau ça, hein?
Ah oui.
Bon, voilà. Donc il y a voilà, l'institution et surtout, surtout je pense mes parents, c'est vraiment les patients qui étaient leur moteur. Là, je vais raconter, c'est une petite histoire, j'ai besoin que tu sois à côté de moi parce que ça m'émeut toujours. C'était que mon père, il avait pris sa retraite, c'était dans les années 90 et j'étais allée avec lui à un colloque, je ne sais plus sur quoi, peut-être un colloque de l'évolution psychiatrique, parce qu'il avait été président de l'évolution aussi, c'était. Et à un moment, à la tribune, il y a un des intervenants qui, voyant qu'il était dans la salle, lui rend un hommage et tout ça, et toute la salle se met un peu à l'applaudir, donc il se lève, il remercie. Il était pas en pleine forme, disons. Et il dit que, voilà, il y a une chose fondamentale qu'il voulait dire, qui était pour lui l'essentiel, c'était l'admiration énorme qu'il ressentait pour les patients. Voilà. Et ça, en même temps, bon, alors, vous allez dire identification, je ne sais pas quoi, mais je me suis dit, moi aussi, voilà, c'est ça. Donc, voilà cette histoire.
Merci. Merci beaucoup.
Donc, mon plan... Je vais vous parler, voilà, ça c'était une introduction, hein, bon. Non, ça pour l'instant, je sais pas encore bien me servir de PowerPoint. Bon, je vais donc parler d'abord, premièrement, je vais parler de mes parents dans le contexte de cette époque. Où, disait-il, donc, comme je vous l'ai dit, on pouvait encore agir et ils se sont jetés jeter dedans, dans l'action, comme le tigre. J'ai écrit le tigre parce que je pense à cet aphorisme de l'écrivain nigérian Vol Soyinka qui dit « The tiger does not proclaim his tigritude, he pounces ». Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit. Bon. Bon, ça c'est ma première partie. Ensuite, je vais parler de ma vision d'enfant, comment ça m'a marqué. Et ensuite, je vais vous lire des textes, parce que je pense que c'est la meilleure chose pour illustrer, parce que des trucs où un peu en différé, où ils racontent un peu ce qu'ils ont fait, après coup. Enfin, mais bon, c'est... Et puis en dernier, je vous montrerai une série de dessins, de peintures, de toujours... voilà, c'est moi qui... Toujours du même Hubert, là, qui illustre... Il a eu un peu le même genre de parcours qu'eux, c'est-à-dire il a été à l'asile, ensuite il a été à Charcot un peu, enfin, hospitalisé un peu, et puis... Enfin, il a connu l'asile pendant 2 ans. Ensuite, il a été suivi par ma mère, un peu hospitalisée à Charcot de temps en temps, et puis à Poissy. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir, de poser des questions après chaque... vous n'hésitez pas. Oui, alors là, je veux bien la photo de mes parents, là. Voilà. Donc, les voilà. Alors, j'aime bien... J'ai retrouvé cette photo, je n'en ai pas trouvé beaucoup parce que ma mère, elle se planquait toujours. Je ne trouvais pas de photo d'elle. Mais alors là, en randonneur, explorateur, sur le petit chemin étroit, là, j'ai bien aimé. Alors, ma mère, oui, qui se mettait un peu toujours en retrait, en particulier, elle quand il s'agissait d'être en représentation... Elle parlait pas, elle disait je suis phobique. Elle laissait mon père devant. C'est pour ça aussi que la plupart des articles et tout ça, c'est lui. Mais les interventions dans les colloques, elle n'intervenait pas. Elle disait je suis phobique, parlait beaucoup. Enfin, la psychanalyse jouait un grand rôle dans leur vie. Et donc, les interprétations psychanalytiques, y compris d'elle-même, ça manquait pas. Bon, donc ils ont suivi le cursus psychanalytique. Alors avec l'idée de, parce qu'il s'agit de comprendre, bon, pour se soigner un peu bien sûr, mais surtout pour comprendre la relation avec les patients, avec le groupe, enfin repérer ce qui vient de soi et de sa névrose propre et ce qui vient du patient ou du collectif ou du groupe. Bon, donc mes parents, Philippe et Edmé Quéclin, ou Edmé et Philippe Quéclin, ils ont toujours tenu à n'avoir pas entre eux de relations hiérarchiques. Ils étaient tous deux médecins-chefs dès le début, chacun leur secteur. Cette hiérarchie là, qui leur semblait toujours si artificielle et en fin de compte si nocive, avec l'idée que dans un système hiérarchisé, eh ben, le patient il est toujours en bas de l'échelle. Et or ça, actuellement, le système hiérarchique, on peut dire qu'il est renforcé hein, dans notre société. Oui, sur cette histoire d'hiérarchie, alors oui, j'ai trouvé sur un site internet là, consacré à Bonafé, il y a une série de témoignages, et il y a la fille, il y a Marie Bonafé qui parle de mon maître Quéclin. Et ce qu'elle décrit un peu, elle raconte un peu son passage à Charcot et tout ça comme interne. Elle décrit les réunions et elle dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui déconstruise la hiérarchie comme Philippe Quéclin. » Mais ça m'a fait plaisir. Donc ils sont nés tous les deux ils étaient nés tous les deux en 1925 et se sont connus à Paris au début des années 50. Bon. Alors, petite note sociologique. Donc, ma mère venait de Clermont-Ferrand, dans une famille très marquée par la guerre, la maladie, la tuberculose de sa petite sœur qui est morte à 18 ans. Enfin, elle s'appelait Nicole, vous voyez, donc c'est... Voilà. Voilà, bon, le poids aussi. Donc, milieu social, elle, plutôt employé, petit commerçant, parce que ça, ses grands-parents, c'était des paysans. Son grand-père paternel, il était boucher dans l'Yonne. Enfin, voilà, la guerre, l'occupation, tout ça, les virait à la campagne pour chercher à manger auprès des paysans auvergnats. Bon. Donc, une connaissance assez précoce de la nature humaine, disons. Et mon père, c'était très différent. Il était d'une famille alsacienne, la grande bourgeoisie protestante, industrielle, ingénieur, tout ça. Bon, il semble que son grand-père maternel était médecin. Il est mort très jeune, peut-être branché psychiatrie à Mulhouse. Bon. Donc lui, il est parti avec ses frères et sœurs d'Alsace en 1939 pour ne pas risquer de devenir allemand, d'être embarqué dans l'armée allemande. Donc là, si très marqué par la guerre, donc c'est venu à Paris, la séparation d'avec ses parents. Et puis, son éducation religieuse, c'était du lourd. Hein. Et se sortir de cette forme d'emprise, ça a été... très formateur, je pense. Là, j'ai trouvé, là aussi je vais vous faire une citation, parce que j'étais un peu surprise de la virulence de ces propos. Là, j'ai trouvé dans les actes du GTPSI, alors les actes du GTPSI que Sophie Legrain, l'éditrice, ah voilà, ça le fait réagir, le petit, a publié, enfin elle avait les. Elle a bon, pas seulement publié, elle les a transcrits, et c'est un sacré travail, il y a plusieurs bouquins là-dessus. Bon, enfin, dans ce. Ah oui, non, mais d'ailleurs, j'ai une. Voilà. Voilà, là j'ai mis. C'est celui-là, oui. Celui où il y a. Justement, je vais vous faire une citation de mon père. Voilà, il y a les participants qui sont indiqués. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il y avait... Non, vous voyez ou vous ne voyez pas? Ouais, plus ou moins, bon. Si. Bon. Donc ça, c'était à propos donc là, on sentait dans la façon dont ils se parlent dans ces groupes, c'est assez... bon, ils n'avaient pas peur du dissensus, hein, c'était pas le consensus, c'était très agréable de voir ça. Bon, alors, lui, il dit à un moment, mon père, à page 20, il dit « Je pense que je suis venu essentiellement pour vous manifester les attachements psychiatriques et d'intérêt qui se rapportent à ce mouvement. » Donc, j'ai reçu un beau jour une lettre avec ces thèses d'organisation, et l'impression générale, je crois qu'il faut parler d'impression générale, ça a été qu'on était en train de constituer non pas une société, mais une secte religieuse avec 12 apôtres qui avaient le droit d'excommunication vis-à-vis de tous les autres, avec des règles d'une rigidité qui m'a semblé extraordinaire. Celui qui n'est pas d'accord avec tous est foutu à la porte, enfin, est excommunié. En lisant ces textes, ça m'a fait bondir, non pas que je ne sois pas d'accord avec un certain nombre d'éléments sur un plan général, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ait quand même sa liberté d'expression, sa liberté de penser, alors que tout ça est vraiment trop rigide. Bon, alors oui, c'est pourquoi je suis là en vous disant l'intérêt que ça présente, mais que sur le plan général et sur la base de cette espèce de secte fermée, mais il savait de quoi il parlait, avec le droit d'excommunication, je ne peux pas adhérer. Voilà ce que je veux dire dans un premier temps. Bon, ça c'est pour mettre en rapport son histoire propre avec comment on en vient à dire certaines choses. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette période de l'après-guerre, c'est tellement, c'est une pleine effervescence, intensité, avec tout ce travail bon, après, bien sûr, les 40 000 morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, enfin, et sorte de plus jamais ça, le travail des aliénations. Bon, Saint-Alban, Toscaïès, Balvé, Bonafé, Oury, enfin tout ça c'est des noms que vous connaissez. Alors, en 1952, voilà le fameux texte sur la psychothérapie institutionnelle, voilà le plan. 1952, ça s'appelle pas la psychothérapie institutionnelle, hein, ça s'appelle la psychothérapie institutionnelle française contemporaine. Hein. Je crois parce que Sophie Legrain me disait que Toscaïès parlait du baptême, alors que cette notion, elle existait. Enfin bon, c'est lui aussi qui l'a. Donc il s'énervait, non ? Bon. Contre cette histoire de... Bon, en tout cas, c'est ça qui a été ce texte de 52. En plus, qui dans les annales portugaises, ça fait beaucoup rire. Oui, oui. Bon, donc c'est un long article. Voilà, c'est assez intéressant. Hein. Voilà. D'accord. Bon, alors, mais sinon, je vais vous donner une autre définition de... Enfin, notre définition de la psychothérapie institutionnelle, enfin, en tout cas, une citation de ce que mon père avait écrit, enfin, dit plutôt, dans les quatrièmes journées d'études de... Non, les journées d'études de Charcot. Alors, je crois que... Oui, bon, on ne voit pas très bien, mais... Les journées d'études de Charcot en mai 66. Et là, voilà, dans les actes du colloque, ça s'appelait... donc, ils expliquaient le Charcot, tout ça, il y avait pas mal d'invités aussi, ça avait l'air aussi assez effervescent. Donc, dans le texte « Psychothérapie institutionnelle au regard du malade », il convient tout d'abord de tenter de définir le concept de psychothérapie institutionnelle. Celle-ci correspond aux psychothérapies réalisées au sein de l'institution, effectuées par l'intermédiaire de l'institution elle-même et de ses structures internes. Ces diverses psychothérapies sont intégrées dans un système global qui seul autorise que l'on parle de psychothérapie institutionnelle au singulier. Toute psychothérapie a son cadre, ses règles, ses protocoles, à travers desquels s'établit une relation entre le malade et son thérapeute. Cette relation s'opère grâce à des médiations habituellement verbales, mais aussi matérielles, bon, dessins, jeux. Les recherches théoriques et pratiques sur la psychothérapie institutionnelle sont particulièrement difficiles. En effet, premièrement, le cadre et l'institution, dont la complexité et la variabilité sont évidemment plus grandes que le cadre des autres psychothérapies, oui. La prégnance des contraintes hospitalières risque de détruire ce que l'on a pu estimer être le cadre nécessaire. Elle risque également d'infléchir continuellement les règles et protocoles que l'on aurait pu définir. Deuxièmement, la relation thérapeutique s'opère entre le malade et le thérapeute, mais aussi entre le malade et le personnel soignant, les autres malades et même l'institution. Celle-ci, sous un mode fantasmatique, est personnalisée par le malade et objet d'un mouvement transférentiel, voilà, personnalisé par le malade, là, comme sur le tableau que je vous avais montré, et objet d'un mouvement transférentiel propre dont l'étude et la manipulation sont, me semble-t-il, ce qu'il y a de plus original dans cette forme de psychothérapie. Enfin, les médiateurs de cette relation sont certes verbaux, mais aussi matériel et partie constituante de l'institution. Voilà, un peu de... Je ne sais pas si c'est de la théorie, parce que dans le même colloque, Jean Houry lui reprochait sa timidité théorique. Bon. Donc oui, je parle d'effervescence. Ils étaient donc très peu nombreux à l'époque, les médecins, les psychiatres de psychiatrie publique, et ils étaient très jeunes, ça, mon père a insisté là-dessus, ils étaient très jeunes, Bonafé, il avait 27 ans au début à Saint-Alban, lui-même il était médecin-chef avant 30 ans, hein. Et voilà, ils se réunissaient, ils parlaient beaucoup, donc j'étais psy entre autres, ils écrivaient, enfin ils faisaient des colloques. Et ils avaient cette possibilité de créer de nouvelles structures Bon, il y avait aussi la formation des infirmiers qui était tout ça, le travail d'équipe, il y avait des tas de thèmes très importants. Voilà, la photo des fumeurs de pipe, là. Là, il y a Daumaison, le plus vieux, là, Georges Daumaison, et puis Hélène Chéniaud, Philippe Pommel et Philippe Quéclin, voilà. J'ai trouvé cette photo assez marrante. On la voit, elle est un peu floue, non ? Je sais pas, vous la voyez bien ? On voit bien le regard de Daumaison, le regard noir de Daumaison. En 1952, hein ? Non, elle fumait la pipe, non ? Ah, bon, je sais pas. Oui, je crois que c'est. Ah oui, bon. En 1952 aussi, alors il y a ce numéro de la revue Esprit qui est très important, intitulé Misère de la psychiatrie, où on écrit pas mal de psychiatres, mais pas seulement, hein, des intellectuels, comme si voilà, la société tout entière s'attelait à ce problème de la psychiatrie. Ça, c'était important. Mon père, il a fait un petit article de lui, là, où il se met dans la peau d'une patiente, et c'est assez touchant aussi. Donc, voilà, ce qui soutenait tout ça, c'était un désir de soigner, de s'occuper de tous ces gens, nos concitoyens, hein, ces malades qu'on dit fous, qui ont souvent une grande lucidité sur les rapports humains et sociaux, et l'importance du fonctionnement de l'esprit et le rapport au social aussi. Là il y a le bouquin de, j'aime bien là, le petit bouquin de Gentis, La psychiatrie doit être faite et défaite par tous, paru chez Maspero aussi en 74. C'est assez fort aussi.
Librairie mythique aussi.
Hein ?
Librairie mythique aussi.
quand je disais qu'il y avait une action possible à un niveau politique, voilà, ça débouche le travail avec les administratifs, avec le ministère. Je me souviens, mon père, c'est des trucs d'enfant que j'entendais, qu'il allait au ministère. Bon, il y a eu la circulaire du 15 mars 60 qui crée la politique de secteur, enfin qui crée, oui, la politique de secteur, les textes sont venus après, là c'était juste une circulaire, mais ce qu'on a appelé la politique du secteur, qui est une vraie organisation de santé publique. Hein. Bon, enfin ça c'est un peu mis à mal actuellement. Depuis 2000, ouais. Pourtant, oui, 60. Oui, on vous entend pas, mais 60 000 lits de supprimés. Donc voilà, mes parents. Donc quand ils prennent leur poste de médecin-chef à La Rochelle en 1955, il y a 700 malades hospitalisés dans l'hôpital psychiatrique de La Rochelle. Ils étaient deux médecins et un interne ou deux. Voilà. En s'affairant à transformer les structures, tout ce travail qui est décrit, la destruction des, enfin, faire avec les patients pour détruire les choses trop asilaires, reconstruire tout ce travail, même au niveau matériel, et puis les journaux, et puis tout ça, enfin tout ça ce qui s'est fait dans beaucoup d'endroits en même temps, hein, mais ils se sont aperçus vite qu'en en travaillant comme ça dans cette ouverture, beaucoup de patients sont sortis parce qu'ils n'étaient plus malades que de l'asile, ces patients. Hein. Et donc ça se passe dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques de cette époque. En 60, ils reviennent en... Mais je vous lirai un texte après. En 60, ils reviennent en région parisienne parce qu'ils ont la possibilité de travailler, enfin d'ouvrir l'hôpital, un hôpital tout neuf en Seine-et-Oise, à plaisir, l'hôpital Charcot. Oui, alors Charcot, c'est amusant parce que Charcot, c'était, sans préciser le prénom, ça pouvait être Jean Martin, le neurologue, moi ça pouvait, je crois que ça avait la préférence de mon père avec son humour peu subtil, l'explorateur, le fils Jean-Baptiste, explorateur polaire, qui était médecin aussi. Et donc, et alors là, récemment, voilà, je vais sur le site internet de l'hôpital et je vois que c'est plus l'hôpital Charcot, mais c'est l'hôpital Jean-Martin Charcot. Donc le neurologue, voilà. Notre époque n'accepte pas tellement tout cet le flou, hein. L'ambiguïté, voilà. Donc ça, Charcot, quand ça a ouvert en 60, c'était un hôpital ouvert vraiment, c'est-à-dire ouvert, ça veut dire il n'y avait pas de porte fermée, hein, à plus forte raison, pas de chambre d'isolement, d'attache et tout ça. Hein. Et c'était le seul avec le 13e. Le 13e, c'était, hôpital public, c'était en fait une association faisant fonction de public, c'est resté d'ailleurs, mais c'est faisant fonction de public. Bon, mon père, il était médecin directeur, c'est ça aussi qui leur ont permis de faire des choses. Ginette Amado, dont je vous parlais aussi, elle était médecin directeur. Bon, alors, mais en 1968, c'était plus possible. C'est là qu'ils ont eu un changement de statut et où ils ont échangé. Enfin, ils étaient beaucoup mieux payés et ils ont eu, enfin, bon, il y a une série de choses au niveau du statut, mais ils pouvaient plus être médecin directeur. Donc là, bon, ils travaillent beaucoup, ils font une psychanalyse. C'est pour ça aussi qu'ils allaient. Je me souviens. Ils allaient à 3 fois par semaine à Paris depuis plaisir, je ne sais pas si vous voyez. Bon, ils travaillaient beaucoup avec les infirmiers, ils sont restés amis après leur retraite, plutôt avec des infirmiers qu'avec des collègues. Enfin, ils n'en avaient pas énormément de collègues d'ailleurs. Bon, il y avait à ce moment-là Charcot, oui, c'était très effervescent aussi. Il y avait beaucoup de visiteurs, des colloques, des articles. Bassaglia qui était venu, il avait dit à mon père que c'était son frère. Voilà, pour vous dire. Bon, après, ça s'effiloche un peu à Charcot. Et en 1970, donc, ils sont invités à. Donc, le corridor de sécurité, là, à Montréal, comme je vous ai dit, oui, les Québécois, ils avaient demandé à Paumelle et à eux de venir pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour les aider à démolir Saint-Jean-de-Dieu après leur révolution tranquille, les Québécois. Donc on s'est installé un an à Montréal, enfin toute la famille. Moi, et bon, là aussi, je vous lirai un texte après, bon, corridor de sécurité, c'est aussi assez. Enfin, il y a du suspense, quoi. Ça se lit facilement, je trouve. Bon. Au retour, Poissy, voilà, un hôpital de secteur à Poissy. Bon, ils retournent un petit peu à Charcot, mais ils sont appelés à aller organiser un nouvel hôpital, donc à Poissy. C'est deux secteurs. Et surtout, c'est ce qui est nouveau, oui, c'est le travail avec l'hôpital général. Les locaux, ils sont en face, mais ils travaillent en particulier, les urgences se font avec les... Et puis, beaucoup de travail avec faisant partie de la CME, de la commission médicale de l'établissement. Bon, ils travaillaient avec les médecins de médecine somatique, hein, ça... Là, c'était assez riche aussi. Bon, et puis après, bon, ils ont pris leur retraite aussi assez tôt parce qu'ils avaient l'impression aussi d'être pris par la bureaucratie, d'être empêchés, et puis qu'ils étaient trop vieux pour changer. Pour, voilà. Bon, après leur retraite, ils ont un peu continué à faire. Enfin, ma mère, elle a été faire enfin, travailler à Médecins du Monde, enfin, faire la bénévole à Médecins du Monde pour voir des patients, surtout des réfugiés, des immigrés. Et mon père, il s'est occupé de Balint. Il a fait des groupes Balint et tout ça. Bon, ça restait un peu dans leur. Bon, leur deuxième retraite, c'était à 80 ans, comme ils disent. Une vraie retraite, hein, parce qu'ils disaient c'est là qu'on commence à se sentir vieux, à 80. Ma mère, elle disait, c'est là qu'on cesse de se sentir immortel, parce qu'elle, ça lui a pris très tard de cesser de se croire immortel. Bon, mon père meurt en 2011, ma mère en 2015. Jamais elle aurait pu penser qu'elle lui survivrait 4 ans, hein, parce que surtout, très diminué comme il l'était, l'un comme l'autre. Et même dans la maison de retraite, on percevait quelques restes d'une tentative d'analyse institutionnelle. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'il imagine. Mais enfin, c'était pas marrant, ça. Bon, c'était compliqué. Bon, maintenant, je commence à les revoir comme ils étaient avant, et ça en particulier, d'en parler là, ça m'apporte. Bon. Ouais. Bon, ensuite, ce que j'ai appelé ma deuxième partie, je vais parler un peu de mon enfance dans ce contexte-là. Oui, je veux bien le. Je vous ai mis ça parce que ça, c'est une tapisserie. Alors, c'est pas le même patient qui avait fait le carton, mais c'est une grande tapisserie qui était toujours sur le mur chez mes parents. Donc, c'est un patient qui avait fait le carton, et puis c'est l'atelier de tapisserie qu'il avait fait. Alors, bon, c'est le rêve de la momie. La momie, elle est là dans le coin. Oui. C'est assez. Je trouve ça assez beau, mais c'est très plein de symboles que je. Enfin bon, en tout cas, ça m'a accompagné. Au choix, je suis née à l'hôpital psychiatrique où ça fait presque 65 ans que je fais de la psychiatrie. Donc avec mes parents, c'est militants, quoi. Je peux toujours raconter que j'ai pas eu le choix. C'est pas tout à fait vrai, mais j'étais élevée dans cette ambiance, bon, de combat, et où tout pouvait changer, et il fallait que ça change. C'était exigeant, mais enfant, je ressentais pas cette exigence, je me retrouvais toujours à défendre, enfin, à devoir entendre des choses sur les fous, et de dire, mais non, c'est pas... Enfin, je ne le disais pas, enfin, on ne le dit pas, mais enfin, c'était par exemple. Hein. Mais je ne ressentais pas cette exigence. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il me laissait authentiquement libre de décider. Et puis, j'ai appris à partager mes parents. Le combat, le travail d'équipe. Et j'ai acquis, là, j'ai un grand sentiment de fraternité avec les patients. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Alors, ceux qui se sont penchés sur mon berceau, qui s'occupaient de ma sœur et de moi. J'ai une petite sœur qui n'a pas fait de psychiatrie. Notre nounou, je vais dire nounou bipolaire, notre Edith, enfin on disait maniaco-dépressive, qui nous a vraiment, qui faisait comme partie de la famille. Voilà, comme tous les enfants de psy de cette époque, hein, là, dans la préface de la thèse de Pommel, là, en 52, enfin... La préface a été faite après. Mon père raconte comment Pommel, qui avait déjà trois enfants, avait récupéré un bâtiment, un des pavillons de Maison Blanche pour installer sa famille, et que c'était une patiente, c'était la fameuse Marceline qui s'occupait de ses enfants. Ça a été la manière dont ils l'ont... Elle est sortie d'un cycle infernal où elle était enfermée, où elle repassait à l'acte, enfin voilà. Donc oui, on était utilisé, enfin au sens winnicottien du terme, donc pour montrer que les malades mentaux n'étaient pas si dangereux, enfin voilà. Et puis il fallait partager, voilà, mes parents qui travaillaient tard, donner mes BD, et j'avais une guitare que j'ai dû donner. Ça c'était les jeunes dont s'occupait ma mère, les jeunes de l'éducation surveillée que je voyais aussi quand je revenais du lycée là, à Versailles. Ils étaient à l'arrière du bus et ils savaient très bien qui j'étais. C'était, bon, quand on est ado ou pré-ado, c'est... et il y en avait un il y en avait un moment, et tous les soirs il déposait une voiture volée devant la porte à Charcot. Et alors, à propos de partage, parce que bon, j'ai raconté l'histoire de mon fils le plus jeune, qui bon, il est interne en psychiatrie aussi maintenant. Bon. Et alors, lui, c'était quand je travaillais rue Garancière, là, au centre d'accueil et de crise, le mercredi matin, je l'amenais parce que j'avais juste une réunion, puis les secrétaires s'occupaient de lui et tout ça. Bon, et une fois, bon, il avait 4 ans, il avait 3-4 ans, et il y avait un patient que j'appelle mon maître fou, parce que c'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, avec qui j'ai eu des entretiens pendant 5 ans, là j'ai appris, bon. Et alors je revois Léon, le grand Léon, monter les escaliers en donnant la main à Lucas, et pendant qu'il monte, il lui dit « Tu vois, chez toi, elle est à toi, mais ici, elle est à nous. » Voilà. Bon, déjà, il lui laissait quand même quelque chose. Hein. Donc oui, là, c'était aussi là, des choses genre aller ouvrir au jeune homme qui sonne à la porte. Là, à Charcot, on avait un logement de fonction, mais en dehors de l'hôpital. À La Rochelle, c'est dans l'hôpital. À Charcot, c'était quand même à 300 mètres. Hein. Et alors là, c'est la fois où je vois un jeune homme qui avait sonné et qui restait complètement fasciné en disant « La sonnette me regarde ». Là, on comprend. Bon, il y avait l'idée qu'il fallait pas qu'on se montre trop à l'hôpital aussi. On devait, bon, on y allait de temps en temps parce qu'il y avait des ciné-clubs, il y avait des choses comme ça. Puis on allait faire du judo aussi à l'intérieur. Il fallait pas. C'est pas pour nous, mais c'est pour protéger les patients, pour pas qu'ils soient trop jaloux. Et comme ça, on avait l'idée qu'ils pouvaient fantasmer sur nous, qu'il le faisait de toute façon, mais que ça ne s'adressait pas vraiment à nous, tout ça. Voilà, c'est ça que j'ai appris, là. On a un énorme pouvoir, hein, nous, soignants. On a le pouvoir de contrainte, bien sûr, qui est officialisé par les hospitalisations sous contrainte, et bon, ça, faut jamais l'oublier, qu'on tout ça s'est encadré légalement, que ce pouvoir, il ne nous appartient pas non plus. Mais là, il y a aussi ce pouvoir qui, de par notre place, de susciter des sentiments extrêmement forts chez les patients. Amour, haine, pas seulement, et toutes sortes de fantasmes. Et ça aussi, ça ne nous appartient pas. Ça, l'enfant l'avait compris, enfant, je l'avais compris comme ça. Bon, adulte, je dirais que c'est de l'ordre du transfert, hein, en termes plus psychanalytiques. Voilà. Transfert vis-à-vis des individus, vis-à-vis de l'institution, voilà. Bon, voici mes souvenirs d'enfance. J'ai une petite histoire africaine, mais je ne sais pas si...
Si, l'histoire africaine.
Bah, c'est une autre forme de... Parce que quand j'étais externe, j'ai fait un stage à l'hôpital FAN à Dakar... C'était de psychiatrie avec l'hôpital que Henri Collomb avait avait ouvert, je ne sais pas si vous, vous aviez parlé de... Bon, Henri Collomb, c'était... Bon, l'école de Fans, oui. L'école de Fans, qui était une école, disons, d'ethnopsychiatrie. Maintenant, on parle surtout de Devreux et Taubinathan, mais là, c'était... Enfin, ils avaient en tout cas à Fans, dans cet hôpital, ils l'avaient... Pareil, c'était à la même époque, les années 60, en utilisant... Oui, psychothérapie institutionnelle, il parlait peut-être de psychiatrie communautaire aussi, de toutes ces choses-là. Donc, ils avaient ouvert les portes, les malades, ils étaient hospitalisés avec un accompagnant, plus de portes fermées, des réunions, des grandes réunions sur le modèle traditionnel qui duraient 2 heures. Hein, c'était... Bon, et alors, à un moment, moi, j'étais là, j'étais même faisant fonction d'interne, enfin bon, c'était pas très sérieux, mais... Et alors, à un moment, il y avait un patient maniaco-dépressif, enfin, disons surtout maniaque, hein, Ibrahim, le prince Ibrahim, je dis le prince parce qu'il était... Alors, cet homme-là, il avait une histoire, c'est-à-dire, il avait un père qui était musulman, une sorte d'imam. Il y avait une mère qui était animiste, mais aussi assez haute dans la hiérarchie animiste. Et lui, il était parti en France faire des études de psycho, et je ne sais pas si il était agrégé, mais enfin, il avait... Voilà. Alors, déjà, Et bon, de temps en temps, il faisait des épisodes maniaques. Et là, moi, j'étais un peu chargée de m'occuper de lui, je me retrouvais, on se baladait main dans la main, lui discourait, c'était facile là-bas, c'est-à-dire ça c'est un élément que j'ai appris aussi en Afrique, c'est-à-dire le contact, le toucher n'est pas dangereux, c'est le regard qui est dangereux. Pour ça les réunions on est toujours très serrés, enfin on se baladait main dans la main, c'était pas du tout érotisé, c'était... Et donc, c'était un jour où mes parents étaient venus en vacances, avec ma sœur d'ailleurs, et ils étaient venus à Fans pour voir Collomb, comme ça. Ils attendaient dans le secrétariat, à côté du bureau d'Henri Collomb. Lui, il était en train de voir le père d'Ibrahim. Et Ibrahim, repérant tout ça, se pointe, m'entraîne dans le bureau de Collomb, va chercher mes parents... Alors, et là, devant Collomb, devant son père, devant mes parents, il demande ma main. Et ça, c'était vraiment voilà comment ça me fait. C'était un psychodrame extraordinaire, hein, dont tout le monde est resté très bien, très ils se sont retrouvés tout de suite, mes parents, au milieu connu et tout ça. Bon, après, on est ressorti. Mais c'était merveilleux, surtout quand on met en rapport avec son histoire, voilà. Moi, c'est oui. Ma petite histoire africaine. Oui, vous avez rien à... Enfin, je sais pas. Non, il n'y a pas des questions. Suite. Vous attendez la suite, c'est ça? Bon, mais les textes, ça va être un peu plus... quelqu'un qui...
Ils ont voyagé en Italie.
Oui, ils ont voyagé en... ils avaient des grands amis, mais pas tellement pour visiter. Enfin, si, mon père, il a fait des... Il y a un moment, il... Oui, il était en rapport avec des associations. Après la fameuse loi 181... Et en tout cas, ils ont voyagé, ils avaient des amis, les Balduzzi, Balduzzi, c'était un psychiatre aussi de Varèse. Ça, c'était après leur retraite, ils ont beaucoup aimé les Balduzzi. Sinon, non, ils ne sont pas allés pas professionnellement, disons.
Voilà. Et Basaglia,
Basaglia, il était venu à Charcot, je crois. Oui, ça... Oui, ou il avait lu, enfin, je ne sais pas, de toute façon, c'était un peu le... Oui, c'était...
Qu'est-ce qu'il y a?
Ah. Bon, ben, le point de vue de la plupart des psychiatres français qui ont quand même... enfin bon, il y a eu... c'est M surtout, et tout ça qui ont... Beaucoup, enfin, je sais... bon, je ne sais pas si on peut parler de psychiatrie d'ailleurs. C'est ça que vous vouliez me faire dire. Oui, c'était tellement carcéral. Et puis ça, oui, c'est, moi, c'est surtout dans les livres de Bukowski, là, Vladimir Bukowski, où il parle de la psychiatrie. Il y en a d'autres. Je lisais beaucoup des ouvrages de dissidents à cette époque-là. Il y en a plusieurs. Il y a Pliouch aussi, ils en parlent. Enfin, il y a... Oui. Bon, c'est... Bon, je n'ai pas trop envie d'en causer plus, tu vois. Mais alors, oui, non, mais si, mais c'est à propos de... Quand même, l'artiste... comment il s'appelle ? Celui qui s'est cloué les testicules sur la place rouge. Pavel... qui est venu en France. Non, vous connaissez Bon, il a demandé l'asile en France, non? Pourquoi j'oublie toujours son nom? Il a fait des... Hein? Il a demandé... Bon, qui fait des... Il s'est cousu les lèvres, il fait des... Et il a demandé l'asile en France, qui lui a été accordé. Mais alors, en France, il a fait... il n'y avait pas de raison de faire de compromis, donc il a mis le feu à la Banque de France, place de la Bastille. Il trouvait que c'était un symbole quand même, comme il avait mis le feu au KGB, enfin l'ancien siège du KGB. Et alors quand même il s'est retrouvé en France, c'est tout juste s'il ne s'est pas retrouvé hospitalisé en psychiatrie. Je crois que quand même les Français, oui. Bah, résultat, on parle plus trop de lui. Je crois qu'il a été en prison et tout ça, mais je retrouve son nom. Oui. Il a été beaucoup, mais je crois pas qu'il était en hôpital psychiatrique en Russie. J'allais dire en URSS, non, en Russie. Bon, je vais vous lire quelques textes. Je commence par ça parce que donc la thèse de Philippe Pommel qui a été rééditée en 88, je crois, qui est tout à fait passionnante, et c'est de traitement collectif du quartier d'agité. Donc c'était avant les neuroleptiques aussi. Quand il était interne de deux maisons à Maison Blanche. Et bon, alors voilà, mon père a fait la préface de la réédition. C'est dans la troisième section où étaient affectées deux maisons que nous nous retrouvons, Pommel et moi. Elle avait été construite peu avant la guerre et était faite d'éléments préfabriqués en tôle. Elle aurait dû être peinte comme le sont les navires métalliques, entretien qui fut négligé. Les modèles thérapeutiques étaient alors de deux ordres. Les traitements de choc, qui amenaient des modifications spectaculaires très rapides, mais souvent, hélas, peu durables, et le maniement psychothérapique de l'ambiance. C'est surtout à ce modèle que se référait Pommel. Donc qui vit intensément la vie du service. À partir d'avril 51, quand Daumaison est à la tête du service depuis quelques semaines, Pommel commence à prendre quelques initiatives. Sans doute a-t-il été déçu que Daumaison, arrivant de Fleury, d'être Fleury-les-Aubrais, Daumaison, avec le prestige de réalisation spectaculaire, se borne à des discussions historiques pour prouver que les modernes n'avaient rien inventé et citer Le Ray ou Boucher de Nantes. La conviction de Daumaison est que les mutations réelles des services ne résultent pas des décisions des soi-disant médecins-chefs. Il est vrai que beaucoup d'infirmiers ont un désir de changement. Daumaison souhaite que les propositions soient faites, que l'émulation joue aussi avec les services d'en face. Parce que Pommel et moi, nous sommes répartis les pavillons et Daumaison a approuvé notre choix. Celui de porter notre effort sur les pavillons les plus difficiles, à savoir les agités pour Pommel, les gâteuses pour Quéclin. Bon. La première démarche a constitué à tenir des réunions entre les infirmières de l'équipe du matin et celles de l'après-midi. Pommel constate alors qu'une malade se tient ostensiblement en marge des réunions, griffonnant des écrits ou tenant des liasses en apparence dérisoires. Il obtient que cette malade les lui confie, comme elle semble en avoir envie. Il découvre de brèves remarques sur le service, texte parfaitement pertinent, tour à tour ironique et déchirant, dont il qui reprend dans sa thèse. Au bout de quelques semaines, Pommel devant s'installer avec sa famille dans la moitié d'un pavillon identique, des travaux de nettoyage sont nécessaires. Il fait venir un groupe d'une dizaine de patientes agitées, ce qu'on peut faire agitées entre guillemets, cataloguées agitées, hein, qui lavent et frottent à qui mieux mieux. Bien entendu, la démarche est diversement appréciée et les attitudes de réserve se manifestent. Cependant, un voyage d'infirmière à Fleury-les-Aubrais amorce une certaine émulation. Plus que des traitements, il s'agit de parvenir à montrer des travaux rivalisant avec ceux d'autres pavillons. Voilà, des buts très concrets, tout ça. Donc, je ne vous décris pas tout, mais en quelques mois, le pavillon a cessé d'être l'enfer. Le poids moyen des malades s'est élevé. Oui, il mesurait le poids des comme élément de l'évaluation des choses. Le nombre des objets inscrits à l'inventaire s'est accru parce que tous ces gens, ces femmes qui étaient hospitalisées depuis des années n'avaient plus rien. Les prescriptions de calmants symptomatiques ont diminué. Pommel n'a pas usé d'autorité. Son souci avait été de susciter les initiatives, les essais et de les multiplier. À vrai dire, il avait peu expliqué, convaincu que ses discours seraient peu entendus et au pire mal interprétés. Il avait su aussi s'engager, lui et sa famille, jusqu'à ses enfants. Ainsi, cette malade, ce que je vous disais tout à l'heure, naguère, terreur de l'asile tout entier, s'était vue confier le soin de promener les trois jeunes Pommel en poussant le dernier dans son landau. Bon, donc... Oui, ça c'est aussi de voir, c'est très très pratique aussi de voir, très pragmatique hein, de voir comment ils sont. Alors, oui, ben le truc suivant. Bon, ça c'est l'institution, c'est toujours mon frère Hubert, avec l'asile dans un coin là. Cette partie-là où on voit l'asile, les ponctions lombaires, l'huile, et puis là, c'est, je pense que c'est Poissy, dans le coin, avec le bar et tout ça. Bon, les gardiens, bon. Alors là, je vous lirai ma mère, elle a écrit, là, pour une fois, elle a mis son nom. Un texte dans l'évolution psychiatrique en 88 qui s'appelle « Vivre en institution psychiatrique ». Alors là-dedans, je vais reprendre ce qu'elle dit de La Rochelle. Donc après, ça, voilà, Pommel, là, c'était 52. Là, La Rochelle, ils y étaient en 55. Donc, quand ils arrivent, nous avons d'abord exercé notre fonction de médecin-chef de 55 à 60 dans un asile donc de 700 lits situé dans une ville de province de taille moyenne, oui, La Rochelle. Cet hôpital desservait un département essentiellement rural d'environ 500 000 habitants. Nous étions les seuls psychiatres publics de l'hôpital et même du département. Deux psychiatres privés et une clinique complétaient cet embryon d'équipement psychiatrique départemental. Je ne ferai qu'une très brève description de l'hôpital Asile, car elle est tristement classique dans sa banalité. 700 malades, hommes et femmes, séparés dans des pavillons, étiquetés admission, agité, chronique, etc. Ça, c'est pour eux, c'était la séparation qui signait l'asile. Hein. Organisation très hiérarchisée où le médecin-chef, notre prédécesseur étant seul, régnait sur des surveillants qui réglaient autoritairement les conditions de travail des infirmiers. Les malades étaient soumis, eux aussi, à des règles qui étouffaient les manifestations dérangeantes, immédiatement sanctionnées par des méthodes répressives, camisole, enfermement cellulaire, etc. Les bons malades jouissaient d'une certaine liberté. Il existait une ébauche de prise en charge extra-hospitalière grâce à des consultations instituées dans des petites villes du département. Donc, il y avait donc le directeur, ancien préfet déchu, soucieux de ne pas avoir d'ennuis. Donc, le pouvoir était entre les mains de deux personnages officiels, le médecin-chef et le directeur, dont nous comprîmes vite qu'ils avaient été rivaux. Alors, le groupe soignant infirmier était divisé en sous-groupes artificiellement créés par l'affectation de ses membres dans tel ou tel pavillon, dans telle ou telle tranche horaire. Donc, le groupe des infirmiers était assez homogène par les caractéristiques communes à ses membres, moyenne de 40 ans d'âge, origine et culture, presque tous charentais ou bretons, verbalisant peu, mais ayant souvent acquis un métier manuel avant d'être infirmier. Solidement ancré dans ses habitudes, le groupe n'accueillait pas sans méfiance le changement de chef, mais on ne les sentait pas prêts à manifester une opposition ouverte, car respectueux de la hiérarchie. Donc, dans ce groupe émergeaient des personnalités marquantes par leur dynamisme, leur désir latent de faire quelque chose. Donc, les groupes des malades, aussi en sous-groupe. Ces groupes fonctionnaient comme dans tout milieu carcéral, unis par des liens sadomasochistes plus ou moins camouflés derrière un souci dit thérapeutique de rendre raisonnable la folie. Nous connaissions ça par nos expériences antérieures d'internes ou d'assistants dans cet univers psychiatrique. Donc ils ont commencé par s'approcher des groupes de soignants pour faire une sorte de minorité agissante. Ensuite, parallèlement à la constitution de ce groupe d'action, nous nous sommes immédiatement attaqués aux mesures répressives intolérables et pourtant banalisées, isolement et surtout moyen de contention, voire punition. Le premier acte symbolique a été de détacher, de faire sortir un jeune malade puni parce qu'il s'était évadé. En 6 mois, tous les moyens de contention furent supprimés et les cellules ouvertes. Les portes des pavillons ont resté fermées, mais des autorisations de sortie étaient instituées. L'intolérable étant supprimé grâce à une minorité résolue et une majorité méfiante mais non hostile, il fut possible de commencer à mettre en place des groupes thérapeutiques institutionnels. D'abord, la constitution d'une association loi de 1901, oui, ça c'était très important, les associations de loi de 1901, qui devait permettre une certaine autonomie face à l'autorité administrative tatillonne et brouillonne, c'est pour la rime, je pense. Qui réunissait les soignants et les soignés prêts à agir ensemble en dehors de la hiérarchie asilaire. Alors donc un objectif dans l'ergothérapie, donc l'accord se fit sur un vaste projet auquel adhérèrent de nombreux soignants et soignés, détruire l'ancien quartier cellulaire désaffecté qui avait pendant la guerre été utilisé par les Allemands et construire un centre social. Voilà, ça, tout ça, ça s'est fait, ça fait la transformation de l'atmosphère asilaire. Secouer les structures asilaires ne pouvait se concevoir sans essayer une ouverture vers l'extérieur. Il ne s'agissait pas d'ouvrir les portes dans un hôpital aussi grand, mais ne disposant pas de l'encadrement soignant nécessaire pour assumer ce type de fausse liberté. Il était à notre avis plus réaliste et positif de s'efforcer de faire sortir les malades en les suivant à l'extérieur grâce à une multiplication des consultations. Voilà, donc... Alors, puis il y a eu des kermesses aussi, pour dédramatiser un peu l'image, des gens de l'extérieur, la vente régulière des produits des ateliers. Oui, ça c'était parce qu'ils faisaient des choses assez intéressantes. Après, je ne sais plus ce qu'il y avait comme atelier, mais il y a un journal qui est... Je te l'avais envoyé, non là, je ne sais pas. Enfin, ils ont fait un journal qui est assez passionnant, ce journal, avec tout le monde écrivait, enfin, je veux dire, les infirmiers, les médecins, même le directeur, il y a le mot du directeur, c'était assez drôle. Et voilà, il parle de ces ateliers où il faisait des choses assez complexes, ferronnerie, oui, des choses comme ça, c'était pas... c'est les lignes directrices. Au début, des progrès spectaculaires purent être réalisés, mais les résistances étaient énormes. Toute modification, toute initiative exigeait une lutte constante auprès des autorités administratives, directeurs, commissions administratives, directions départementales, très peu ouvertes aux problèmes psychiatriques. Voilà, nous étions considérés par lesdites autorités comme trop jeunes et dangereusement utopistes. Oui, là, ils avaient entre 30 et 35 ans, hein, quand même. Bon. Oui. On peut. Oui. Tu veux qu'on fasse une petite.
C'est-à-dire que, est-ce que, pour qu'après on puisse amener un peu de la discussion, est-ce que tu peux nous. Comment. Tu vois.
Oui, bon. Non, bah c'est sûr que après Charcot, c'est un peu. Enfin, on voit comment il procède. Non, mais Charcot, là, ça avait un côté un peu anarchiste, un peu. Voilà, on les a.
Un petit extrait pour Charcot.
Un petit extrait pour Charcot. Oui, là, c'est là qu'ils avaient dit le véritable directeur de l'hôpital, c'est le malade. Alors, voilà, c'était dire... Alors, c'était en plus, là, je vous parlais de l'humour de mon père, subtil. En plus, il savait très bien, c'était lui le directeur, il était médecin directeur. Donc, il savait bien toute cette histoire entre le psychiatre fou et le... Voilà, le vrai directeur de l'hôpital, c'est le malade. Je crois qu'il s'est bien amusé avec ça aussi, cette idée. Mais enfin, bon, c'était l'idée de vraiment faire tout pour... Donc, puis c'était au moment... Il y a eu mai 68 aussi, pendant cette période-là, entre 60 et 70, où ils étaient. Donc, il y avait des choses quand même très... là aussi, on devait les traiter de dangereusement utopistes. Je ne sais pas, quand il y a le groupe des jeunes qui est monté sur le toit, où ils sont restés plusieurs jours, il y avait... des choses... voilà, pendant 5 ans, la collectivité vécut intensément et c'est véritablement le malade qui était le directeur de l'hôpital car son intérêt était considéré comme primordial et moteur de l'activité soignante. Voilà. Oui, tu vois, il y a trop de choses. Hein. Et Montréal, quand ils sont passés à Montréal, ils avaient pris le service, ils avaient demandé à avoir le service qui était tout au fond de l'asile pour vraiment le dernier cercle où c'était des femmes qui étaient hospitalisées depuis des années, qui sortaient plus, qui étaient attachées en permanence presque. Bon, alors ils ont souffert quand même, c'était un peu dur. Mais ils ont raconté tout ça. Mais ils trouvaient d'une part que les Québécois, ils avaient ce courage de demander, qui trouvait que les Français, ils n'auraient pas fait ça, de pouvoir demander de l'aide et ouvrir. Et puis, au niveau de l'institution, ils voyaient aussi une différence entre une hiérarchie beaucoup plus... un système beaucoup plus matriarcal. Ils trouvent que les asiles, en général, c'est un système un peu matriarcal, mais en plus, au Québec, avec Saint-Jean-de-Dieu, qui était c'était des bonnes sœurs qui étaient là pendant très longtemps, puis avec et donc où le médecin, enfin, vous voyez ça vraiment comme une hiérarchie, ça, et puis voilà, la dichotomie entre le pouvoir de la mère infirmière toute puissante dans la pratique et le père médecin présent épisodiquement, ne s'occupant pas des conditions de vie du du patient. Bon, cet aspect-là. Cet aspect aussi, alors là, ce qu'ils ont vu aussi s'annoncer, ce qui est venu après en France, c'est-à-dire, parce que les Canadiens, ils sont très forts pour les procédures et tout ce qui est de mettre des mots, de la langue de bois, ça a commencé, bon, sans parler du DSM et tout ça. Mais ça, ils découvraient ça, les évaluations. Le mot d'évaluation, ils ne comprenaient pas ça, ils ne comprenaient pas. Le programme thérapeutique, ça allait laisser dans... Les Québécois parlaient déjà en 70 de programme thérapeutique. Bon, voilà. C'est mieux de...
Nous rappeler
la
discussion. Merci infiniment, Nicole.
Tiens, mets-le...
Bien, j'ai
laissé
la parole à
Gauthier.
Non, mais
il y a un micro. Ah, le micro, celui-là. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il fonctionne.
Peut-être qu'il fonctionne. Attends. Ah, si, il fonctionne. Ça va? Oui. D'abord, excusez-moi, mais bon, j'ai dû manœuvrer dans les rues de Rouen pour arriver jusqu'à vous. Mais. Je voudrais d'abord aussi remercier Anne parce que ça fait deux fois, coup sur coup. Alors, je ne sais pas si vous avez assisté l'année dernière à l'équipe de Jean Houry qui était venue nous voir. Mais en tout cas, moi, je vous écoutais en réécoutant un peu les propos de l'équipe de Jean Houry. Et. Je trouvais que c'était une autre ouverture que vous nous donniez aussi sur la transmission de ce qu'était la psychiatrie de l'époque. Moi, j'en ai vu la scène intermédiaire, j'ai envie de dire la mise en place des secteurs. J'ai participé pendant 10 ans dans un secteur de l'Orne à l'origine d'un secteur. Et c'était... les pionniers... C'était oui. Votre père, vos parents, Houry et tant d'autres, nous ont donné beaucoup, à la fois beaucoup de fil à retordre, parce que c'était pas facile de reprendre leurs travaux pour essayer de comprendre un peu comment faire avec ces grandes malades qu'on allait chercher à l'hôpital départemental pour emmener à 80 km et pour les accompagner au mieux. Et alors, plusieurs questionnements me sont revenus par rapport justement à ce que disaient les deux jambes de la psychothérapie institutionnelle dont nous disait l'équipe de Jean Houry. Le politique. Et puis...
le marxisme, oui.
Et puis la psychanalyse. La psychanalyse et tout ce qui va avec, quoi. Et moi, j'entendais quelque chose d'autre quand vous racontiez, que j'avais peut-être moins entendu chez eux, quand vous racontiez les passions du groupe des pionniers qui s'engueulaient passionnément. j'entendais aussi le groupe comme corps intermédiaire. Avec toutes les désillusions qu'il y a dû y avoir, parce que c'est quand même au départ la psychothérapie institutionnelle, ça s'instaure aussi sur le marxisme, ça s'instaure sur le lien avec le parti communiste, ça s'instaure avec et avec les remises en cause dans les années 50. Et donc il y a eu une question tout à l'heure, et la psychiatrie soviétique, voilà, mais... il devait y avoir aussi beaucoup, parce qu'on a l'impression, nous, quand on vient après, on se dit, mais qu'est-ce que c'était bon, cette aventure humaine. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'angoisse, de perte, de conflit autour de la perte des désillusions, des illusions. Et si, il y en a eu, je pense. Il y en a eu. Mais... C'est un premier questionnement, quoi. Mmh. Et deuxième questionnement qui me naît, c'est aussi, revient sans arrêt le mot de l'ambiance. On ne le pratique plus, ce mot de l'ambiance. C'est sorti après sous des notions diverses et variées. Le travail dans les interstices, dans les couloirs, dans les... Mais vous, c'était le mot d'ambiance. C'est pas rien ce mot d'ambiance, parce que vous le racontez aussi à travers... et j'ai eu pendant 10 ans une aventure un peu de travail avec une sociologue à Caen qui était aussi fille d'un dernier médecin directeur de l'hôpital psychiatrique à Caen et qui racontait un peu la même chose, c'est-à-dire que ses contacts avec ses nounous particulières, ce contact avec celui qui amenait le lait de la ferme, alors bon, peut-être qu'il n'y avait peut-être pas une ferme, mais là, il y avait une ferme, qui fait une ambiance, et puis est-ce que vous renvoyez aussi de... il fallait avancer avec tac. Mes revenus, ben c'est moi le mot tac que je reprends de Ferenczi, hein, mais ce mot de tact, pour décrire un peu presque attention à ce qu'on provoque.
Oui.
Quelle que soit notre place, attention à ce qu'on provoque. Alors moi, j'essaye de... J'essaie de cultiver dans les rencontres que j'ai avec les étudiants pour essayer de, bien au-delà de contre-transfert, tout ça, mais voilà, qu'est-ce qu'on provoque par-devers soi, en se positionnant de telle ou telle façon, surtout par rapport à des sujets qui sont en état de vulnérabilité, quoi, à des moments donnés, donc qu'est-ce qu'on va provoquer?
Ça, ouais. Juste un petit certains, voilà, par exemple, ça c'est qu'est-ce qu'on provoque. C'était juste
peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut réagir déjà par rapport à ces deux choses.
Oui, je voulais juste dire une chose par rapport au marxisme et au oui, mes parents, ils n'étaient pas du tout marxistes, pas du tout, c'était pas du tout leur truc. Même leur réflexion politique, pas tellement, c'était pas... ils étaient beaucoup plus dans l'action, le pragmatisme, ils se sont pas... C'est là-dessus que ça portait un peu les discussions avec Oury, j'ai l'impression, c'est que Oury... chercher quelque chose plus d'une doctrine, alors que ils voulaient absolument pas. Enfin, pour eux, c'était pas, ils voulaient pas. C'est pas que ça se posait comme ça. C'est pour ça que je racontais l'histoire du tigre, parce que ça me semble, on y va, et puis on s'interroge pas sur sa tigritude. Mais ça j'ai trouvé ça, j'ai découvert ça d'une certaine façon. Donc, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont moins moins connu maintenant, parce que il y a pas eu
Et l'ambiance alors?
À l'ambiance oui c'est ça là, justement ambiance sale. S'il y a des gens, enfin j'allais, en tout cas il y a un bébé là qui est remarquable.
Ah, bonne ambiance.
Bonne ambiance pour les bébés.
C'est une bonne ambiance pour les bébés, oui.
Peut-être, quelques réactions, quelques questions. Oui.
Mais non, je disais juste que ça fait un peu peur, parce que moi je suis infirmière en psychiatrie depuis peu de temps. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, voire que ça a empiré, en fait. Voilà, c'est un peu défaitiste, mais c'est mon ressenti.
Oui, sur certains plans, ça... Il y a des choses qui ont pu empirer, oui, parce que c'est fermé, c'est contraint, c'est... Mais quand même, non, je crois qu'on ne peut pas dire ça, parce que quand on voit comment était l'asile, enfin... c'était parce que les, c'est genre, le pavillon d'Agité dont parle Pommel, là, les malades étaient attachées presque 24 heures sur 24 pendant des années. Hein. Elles avaient plus rien, plus aucune possession, plus rien de leur ces pavillons d'agité. Puis non, puis ils étaient beaucoup plus nombreux à être. Et puis bon, ce qui s'est passé pendant la guerre pourrait plus se passer. Et puis je pense que la société a beaucoup a un regard quand même plus sur. Il y a plus de. Enfin, je vois la génération de mes enfants, par exemple, ils ont plein de copains qui ont pu être suivis en psychiatrie ou qui sont. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus. Enfin, je donne ça comme exemple, parce que. Mais plus ouvert malgré tout sur socialement là-dessus il y a quelque chose on sait peut-être un peu plus que ce qui peut rendre malade aussi c'est les conditions sociales c'est quand même
mais peut-être que ce qui a amené une régression c'est les 60 000 lits tout à l'heure qui ont disparu de la circulation. Alors, il y a beaucoup de lits qui ont disparu de la circulation pour la politique des secteurs, voilà, avec une belle efficacité. Moi, je l'ai vu jusqu'aux années 2000 à peu près. Et puis, à partir des années 2000, ça a été vraiment la suppression voilà, au niveau du pouvoir économique, quoi, qui a pris le relais. Et avec en même temps une société qui s'organise un petit peu autrement, quoi.
Oui.
Et qui fait moins la place à une transmission dans les pratiques. Les DSM dont vous parliez tout à l'heure, qui nous sont arrivés sur le coin de la figure, j'ai presque envie de dire, et avec une difficulté en plus à s'engueuler avec l'organisation.
Oui, voilà.
Ouais. Pas plus tard que la semaine dernière... Moi, j'ai eu un collègue qui a été convoqué parce que, dans un CMPP, hein, ça n'a rien à voir avec une grosse organisation. Normalement, on devrait être capable de disputer oui. sans qu'il y ait... Mais la directrice qui convoque mon collègue en question pour dire « Mais vous êtes mal comporté, là. Ça suffit, quoi. » Donc, il commence à lui dire « Mais vous voyez, madame, comment vous vous comportez avec nous ? Comment vous... Vous êtes en train de détruire un tissu institutionnel qui fonctionnait correctement. Alors il y a peut-être des enjeux de changement, il y a peut-être à changer des choses, mais là vous êtes en train de nous asphyxier là, par cette interdiction de la conflictualisation. Alors que
oui, bien sûr. Ça, c'est,